On est encore en direct depuis cette esplanade en face du château de Ciel-Guillaume où se déroule le festival Qui cloche. Encore presque 2 heures à peu près de spectacle à attendre sur ce festival. Et depuis le début de l'après-midi, nous avons ici la chance de recevoir les artistes qui viennent se produire dans le cadre de ce festival. Certains sont des habitués et puis d'autres y viennent pour la première fois, ce qui est le cas de Eric Domenicon. Bonjour.
Bonjour.
Eric Domenicon, vous représentez ici une compagnie qui s'appelle La Soupe.
Ouais.
Et qui est de Metz. Vous êtes Lorrain.
On est Lorrain.
Voilà. Oui. Alors, vous présentez une forme de spectacle assez original, puisqu'il s'agit en fait d'une des formes les plus petites de formes de théâtre qu'on peut avoir, où les mots jouent un rôle important, les images jouent un rôle important, le papier joue un rôle important, le son joue un rôle important, et tout ça est minuscule finalement. Expliquez-nous exactement quelle est l'œuvre d'abord que vous avez utilisée et les techniques que vous avez développées.
Alors, on adapte pour la scène un ouvrage, une œuvre qui est paru en 1919 à la Nouvelle Revue Française, qui était la maison Gallimard, toute jeune maison d'édition à l'époque. Et cette œuvre, c'est Macao et Cosmage ou L'expérience du bonheur, qui est l'œuvre d'un jeune artiste, Eddy Legrand, qui sortait, enfin jeune artiste, il avait 27 ans, mais on peut penser que quand la commande a été faite, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais quand la commande a été faite, certainement 2 ans auparavant, il devait sortir encore, tout jeune sorti des Arts Déco de Paris. Et Eddy Legrand faisait partie d'un milieu intellectuel de l'époque à Paris, et Gallimard lui a passé commande d'un ouvrage pour la jeunesse, d'un conte philosophique, et avec seule contrainte, finalement, il avait une liberté totale. La seule contrainte, c'était de raconter le monde tel qu'il le voyait.
Alors, on voit cette opposition entre le monde moderne et la nature. On retrouve un peu Rousseau, à la limite.
Oui. C'est d'ailleurs ce qui, aujourd'hui, sont des qualités. En 1919, lorsque le livre paraît, sont des attaques. Ce sont des défauts. Vous parlez de Rousseau, on l'accuse, on lui dit... Oh, Le Grand, c'est joli ton truc, mais c'est un peu rousseauiste. On n'en est pas là. Aujourd'hui, en 1919, on pense que le progrès va sauver l'humanité. On est encore vraiment un petit peu sous le joug un peu du positivisme. Auguste Comte, on est vraiment tout près. Et Eddy Legrand dit non. Le progrès peut sauver l'humanité, mais attention, qu'est-ce qu'on fait avec le progrès? Où est-ce qu'on en est avec le progrès? Et c'est tout le propos du livre qui, pour l'époque, est étonnant et qui, pour aujourd'hui, est étonnant de modernité.
Alors, en deux mots, le pitch, on va dire, de l'histoire, pour faire simple, c'est quoi?
Citez-nous le pitch. Macao et Cosmage, au début du livre, sont deux enfants qui vivent sur une île paradisiaque, une île déserte. On ne sait pas de quoi ils vivent, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. D'ailleurs, Eddy Legrand nous dit, on ne sait pas, il ne dit pas, il dit voilà. Il nous dit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que Macao est blanc, Cosmage, elle est noire. Macao et Cosmage sont deux enfants qui vivent heureux sur une île paradisiaque au milieu des fleurs et des animaux, d'une nature luxuriante et d'une nature généreuse. En grandissant, ils vont découvrir l'amour, ils vont s'aimer d'un amour incroyable. Et sur cette île, un jour apparaît quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'effrayant, un bateau qui arrive et va apparaître la civilisation. Arrive la civilisation qui va s'installer, elle aussi, sur
la civilisation.
La grande civilisation.
Les technologies, l'exploitation du sous-sol, tout ça.
Ouais. L'exploitation jusqu'à la fin, puisque on nous parle, Eddy Legrand nous parle de la forêt magnifique. Elle est rasée pour en faire des parcs publics. Les plus beaux arbres sont coupés, envoyés en Europe. C'est l'exploitation.
Donc ça, c'est un roman.
Bon. Voilà, ça, c'est l'histoire.
Mais vous, en moins de 15 minutes, vous faites le tour de cette histoire en la présentant de façon originale au public. Alors, comment vous procédez? Racontez-nous.
Alors, c'est un roman.
Justement, cette espèce d'échange.
C'est pas uniquement un roman, c'est un livre illustré. Eddy Legrand est illustrateur au départ. Donc, il dessine, il fait des planches, c'est une page par planche. Une planche par page, et le texte est à l'intérieur. C'est quelque chose de nouveau. Nous, ce qu'on s'est dit, on va reprendre Alors bon, on va raconter l'histoire. On a dû résumer un peu l'histoire, puisque 15 minutes, on ne pouvait pas dire toute l'histoire. Il y a une quarantaine de planches dans cette histoire. On va reprendre les images d'Eddy Legrand et les mettre en volume. Utiliser les techniques, alors les techniques du théâtre de papier.
Donc les images que vous utilisez sont des images originales.
Les images sont les images originales.
Ah, ça, on ne le saisit pas tout de suite.
Non.
Ah ouais, heureusement que vous nous le dites là. Oui,
voilà, alors les images sont les images originales. Et nous, bon, c'est notre métier.
Ouais.
Les reprend, on les reproduit, on les retravaille pour pouvoir les mettre en volume. Les techniques du pop-up, des livres pop-up qui en ce moment sont assez à la mode, on les retrouve. Après avoir disparu un petit peu, là, ça revient en force. Donc, on utilise les techniques du livre pop-up, de volume, de mise en volume. On marionnettise quelque part. On est une compagnie de la soupe, c'est une compagnie de marionnettistes. On marionnettise un ouvrage qui est en deux dimensions, on le passe en trois dimensions. Et on a essayé, alors par le découpage du texte, d'avoir une écriture dramatique, de donner une écriture dramatique sans changer un mot.
Ce qui étonne quand même, c'est que quand je vous demande de d'écrire un petit peu tout ça, c'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce mini-théâtre, vous le portez avec des bretelles sur vous.
Oui, théâtre à bretelles.
Pourquoi avoir choisi cette forme plutôt que quelque chose de fixe finalement, trouver sur Tréteau?
On a fait également une version de ce spectacle qui dure une heure, celle-ci, pratiquement une heure, un peu moins d'une heure, où là on raconte toute l'histoire et là c'est fixe, c'est sur scène, il y a un pianiste qui est présent, comédienne qui raconte, qui dit le texte, et les planches, elles, là, sont très grandes, le gastelet est très grand et puis on raconte toute l'histoire. Et nous, on a décidé aussi d'en faire une version pour la rue et de s'adresser directement.
C'est la rue qui vous amène
à
ça. Voilà. Le fait de pouvoir être mobile,
Pouvoir s'adresser aux spectateurs dans toutes les conditions, dans toutes les positions possibles. Alors, on peut le jouer, on le joue dehors, on le joue aussi dans des restaurants, on le joue dans des bars, on le joue.
Ouais, ça s'y prête
bien.
Voilà,
ça se prête bien. On arrive autour d'une table, on joue pour une dizaine de spectateurs, 12 spectateurs.
Vous êtes conditionné par le nombre de casques?
Par le nombre de casques, et aussi parce que si on a plus de monde, ils ne verront pas parce que les images sont toutes petites.
Alors, il y a aussi un texte qui
voilà,
qui,
le
qui
texte, déroule, on le déroule.
Comme dans le cinéma muet, dans le temps.
Voilà, et
maintenant, il va se passer ça.
Pierre Boisflug, qui est un pianiste contemporain, avec qui on travaille depuis 10 ans. Pierre fait également beaucoup de ciné-concerts. Et il a composé pour le spectacle une musique qui est inspirée de toute la musique du début du XXe siècle. Toute la musique, alors, il y a vraiment une inspiration musique, ce qu'on appelle la musique française début du XXe siècle, avec Debussy, Ravel. Un peu plus loin aussi, il a des choses qui nous vont aller vers Messiaen et tout ça. Mais également le jazz, l'arrivée du jazz et tout ça. Tout ce qui est le monde musical est en effervescence au début du XXe siècle. On invente plein de choses. On commence à trouver même à fabriquer des nouveaux outils. Les micros arrivent, la sonorisation arrive. Alors on se rend compte qu'on peut faire des choses incroyables. Donc Pierre s'est servi de tout ça pour composer la musique. Et quand on a eu la bande, enfin Pierre a composé la musique, on s'est dit non, on va pas pouvoir dire le texte d'Eddy Legrand. Plutôt que de le dire et du coup mettre la musique en second plan, on va garder la musique en premier plan, comme pour le cinéma muet, et le texte, on va le faire défiler au-dessus, et le spectateur va devoir lire le texte. Ce qui fait qu'on a un spectateur qui est complètement captif. On le prend.
Il est obligé de se concentrer effectivement sur le texte. Oui.
On l'isole avec des casques, puisque la musique est diffusée dans des casques, et il est un peu isolé du monde extérieur. Et il doit lire le texte et suivre les images. Et là, on raconte. Et c'est du coup dans le monde, dans le monde de la rue, il peut y avoir du passage autour, il peut y avoir plein de choses qui se passent autour de nous. Non, là, nous, on est 12, une douzaine à être concentrés autour de cette histoire de Macao et Cosmage.
Sur la fabrication, c'est du papier, du carton uniquement.
Papier, carton, bois pour le castelet. Et voilà, c'est pour ça, c'est très fragile. Quand il y a une ondée, hop. Si on est dehors, il faut vite se mettre à l'abri parce que c'est déjà arrivé et là c'est tout foutu, il faut tout reconstruire.
Je comprends ça. Vous avez adapté d'autres œuvres, d'autres histoires sur le même concept ?
Non, c'est la première fois qu'on faisait cette chose, qu'on faisait ce travail-là. On a déjà dans d'autres spectacles abordé le travail du théâtre de papier hein, avec des spectacles où les personnages étaient des photos, des photographies découpées. Donc on avait des pantins, des décors avec le pop-up, le principe des pop-up. On prenait des photos ou des dessins qu'on mettait en volume. Mais à chaque fois, c'était des créations originales, mais pas comme ici, une adaptation, quoi.
Puis c'est bien parce qu'il faut lire.
Oui. Bah oui. Et alors là, c'est assez formidable.
On
parce
revient
que
dans une société où, enfin, dans une, les valeurs de
la lecture classique,
la c'est plutôt une bonne chose. Ouais.
Si, mais alors sans vouloir être passéiste ni moralisateur, parce qu'il n'y a pas à l'être de ce côté-là, mais on se rend compte parfois même que l'adulte ne fait pas confiance à l'enfant. Par exemple, cet après-midi, j'ai eu plusieurs fois.
Tu as bien lu.
Voilà. Je ne sais pas s'il a eu le temps de lire parce que vous alliez vite. Mais il se trouve que moi, je vois les spectateurs. Je les vois. Et je vois. Et je regarde. Je fais attention aux enfants.
Ouais.
Et je vois leurs yeux. L'œil de la lecture, on le voit. Il y a une petite oscillation comme ça. Et on voit qu'il est en train de suivre. Hein. Et quand il ne suit pas, quand le spectateur ne lit plus,
vous en rendez compte.
On s'en rend compte tout de suite. Donc dans ce cas, bah, on ralentit le rythme, on s'adapte. On va le rechercher pour qu'il rentre de nouveau dans l'histoire. Et en général, ça se passe très, très bien. Quoi.
Cette forme de présentation artistique, donc en petite forme, c'est vous qui l'avez mise au point ou est-ce qu'elle existe depuis longtemps ? Est-ce qu'il y a des traditions quelque part dans le monde autour de
Alors,
cette forme de tout petit théâtre ?
Oui, mais on s'est inspiré, bien sûr, du kamishibai japonais. Hein, où là, c'est une tradition multiséculaire du kamishibai, où certaines formes de kamishibai, les artistes vont se produire dans des lieux publics et trimballent leur petit théâtre et racontent des histoires. Et là, mais ils les disent. Ils vont dire le texte, hein, ils disent les histoires et ils présentent les décors, les personnages à l'intérieur. On s'est inspiré de ça, on s'est inspiré du théâtre de papier européen, qui apparaît déjà dès le 18e siècle. Hein. Je crois que vous avez reçu à Qui cloche Alain Lecuc, avec un spectacle de théâtre de papier il y a quelques années, qui est le grand spécialiste du
roi. Oui,
qui est le grand spécialiste du théâtre de papier en France. Hein. Vraiment, on lui doit beaucoup parce qu'il a fait vraiment renaître cette discipline des théâtres de marionnettes. Et donc, on s'est inspiré de ça, évidemment, hein, de tout ça. On s'est inspiré de beaucoup de choses pour faire notre propre sauce, notre propre soupe à nous. Quoi.
Donc, pour terminer, justement, puisqu'on y est sur la soupe, ouais. un commentaire quand même sur cette troupe. Donc, vous êtes Lorrain, vous rayonnez plutôt sur l'Est tout de même, mais de façon plus générale aussi.
On rayonne un peu. Bon, c'est national, hein, on joue un peu partout en France, partout où on nous appelle, on va jouer. On joue un peu international aussi, là, depuis quelques années. On a eu la chance d'aller jouer au Canada, d'aller jouer en Espagne, en Italie, en Belgique. On a fait pas mal de choses aussi sur l'île de la Réunion. C'est la France, hein. Voilà, on a été jouer là-bas. Et avec des collaborations aussi avec des artistes réunionnais. Voilà, et puis on est une dizaine d'artistes à composer cette
compagnie. Vous êtes tous sur la Lorraine ou l'Est ?
Sur l'Est, on va dire.
Ouais, globalement.
Globalement.
Il y a une espèce de cohésion.
Ouais, ouais.
Cette troupe existe depuis longtemps ?
10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année.
10 ans, elle a toujours été sur le même axe de création ou est-ce qu'il y a eu des évolutions ?
Alors,
est-ce que vous en sentez d'autres aussi, évolutions à venir ?
Ben, on sent l'axe de création, c'est vraiment toujours, ce sont des marionnettistes et des musiciens à la base. Et c'est pour ça la soupe, hein, d'ailleurs, avec plein de petits points.
Mais très étrange la façon dont c'est écrit, oui. C'est S-O-U-P-E, en fait.
Ouais, S-O-U-P-E, parce que voilà, hein, y a des musiciens, il y a des danseurs parfois qui nous ont rejoints, des costumiers, des plasticiens. Ce sont des artistes de différents horizons et on essaye de travailler ensemble et de créer des spectacles où toutes les formes d'art vont se retrouver. Ils vont essayer d'être en correspondance. Et si on a un axe depuis 10 ans, c'est vraiment, on crée des spectacles. C'est vraiment la marionnette, on va dire, au départ, hein, qui est le ciment. Et après, autour de la marionnette, on s'amuse, quoi.
Créer, s'amuser et travailler professionnellement.
Ah ben oui, oui.
C'est une troupe intégralement professionnelle.
Intégralement, complètement professionnelle. Hein.
Ouais. Et qui a la chance donc de se produire un peu partout, France et dans d'autres pays, et puis aussi à Cyril Guillaume. Et voilà. Et pour nous, c'était effectivement tout à fait intéressant de découvrir cette forme-là. Je crois que c'est la première fois qu'on avait une présentation de
théâtre à bretelles.
Théâtre à bretelles. Je crois que c'est la première fois. J'ai pas souvenir de d'autres prestations de ce genre. Et donc, c'est évidemment très très intéressant à découvrir. Voilà, nous étions donc avec Eric Domenicone de La Soupe à Metz, qui nous présentait ici Macao et Cosmage, une adaptation donc d'un texte pour enfants qui date de 1919 et qui est mis en valeur par du théâtre à bretelles. Du théâtre à bretelles, rendez-vous compte tout de même. Voilà, merci à vous, Eric Domenicone.